Bonjour Odam Madou, député La République En Marche de Loire-Atlantique, et Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique rattaché au groupe du Rassemblement démocratique et social européen, ont le vendredi 7 décembre 2018, au cours d'une même conférence de presse, partagé leurs réflexions sur l'actualité et exposé leurs idées pour sortir de la crise.
On s'est vu avec Aude mercredi à Paris, on a échangé sur la situation politique, et du coup on s'est dit qu'on avait suffisamment de points d'accord dans nos analyses et nos propositions pour le faire ensemble, même si j'insiste quand même là-dessus au départ pour que vous ne tiriez pas des conséquences politiques exagérées, parce que moi du contraire, Aude est dans la majorité et moi pas. Et ça n'a pas changé.
Et pour ce nouveau numéro de Rien à voir, nous avons retenu les deux points suivants, l'importance de l'aménagement du territoire et les suites à donner à la pétition pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Mais avant tout, Odam Madou et Ronan Dantec motivent leur initiative.
Ce qui a motivé ce point presse, c'est que j'étais à l'initiative d'une tribune la semaine dernière où, avec 9 députés de la majorité sur cette volonté de prendre en considération le mouvement des Gilets jaunes et de réécrire ensemble un pacte social. Donc le pacte social, effectivement, il se fait avec les corps intermédiaires, les élus, les citoyens et les gilets jaunes, mais il doit se faire aussi en amont avec les élus. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir travailler en co-production avec l'ensemble des élus qui représentent un même territoire.
Il faut maintenant qu'on montre comment nous sortons de cette crise. Ça ne peut pas être simplement « on bloque l'augmentation de la contribution climat-énergie ». C'est obligatoirement dire, nous parlementaires, on a compris le besoin de débat, on a compris le besoin de refonder un contrat social, c'est ce que je dis, un pacte social, c'est ce que dit Odam Madou, et que pour ça, il faut dire notre propre disponibilité au débat. C'est vraiment le sens de cette conférence de presse ce matin. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, on est dans un moment où, si on ne remet pas en cause le logiciel qui est à l'œuvre depuis 35 ans, qui est globalement un logiciel libéral d'adaptation de la nation, des territoires à une économie libérale mondialisée, si on ne remet pas en cause ce logiciel, alors ça va très mal finir, comme ça a très mal fini déjà politiquement dans beaucoup de pays autour. Donc pour éviter ça, il faut sortir de cette crise par des propositions fortes de redistribution, de solidarité et d'égalité entre les territoires, dans l'accès aux services publics, et donc faire de vraies propositions. Que les parlementaires s'engagent dans le débat, ça veut dire aussi qu'ils ont une double responsabilité. D'abord, bien participer à l'organisation du débat. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi les gens qui sont intéressés par ce débat à nous contacter pour qu'on réfléchisse ensemble sur la forme du débat, mais que derrière aussi, ils soient garants du fait qu'ils vont défendre les propositions qui sortent du débat. C'est ça le contrat. Alors c'est un contrat difficile au départ, puisque si un parlementaire va sur un rond-point des Gilets jaunes, il ne va pas être accueilli avec des fleurs. On le sait très bien. Moi j'ai échangé avec des Gilets jaunes, c'est des discussions souvent très tendues. Surtout si on ne va pas dans le sens de la démagogie. Et donc à partir de là, nous on propose cette démarche et elle n'est possible que si effectivement un certain nombre de parlementaires de la majorité de l'Assemblée nationale disent « on est prêt à y aller aussi ». D'où l'intérêt de faire une présentation commune avec Odam Madou, qui elle est dans la majorité. Alors moi je n'y suis pas, j'ai été élu au sénatorial avec une liste En Marche en face de moi, et tout le monde connaît mon caractère très critique sur un certain nombre des positions de ce gouvernement.
Vous êtes posé cette question, quel impact aura de vous voir côte à côte tous les deux? Parce qu'on peut se dire, ils sont de connivence.
Ah ben moi je pense qu'il y aura des critiques, ça c'est évident, mais il peut y avoir, ça peut aussi faire partie d'une prise de conscience du fait qu'on ne peut pas rester les uns et les autres, finalement, dans notre précaré ou sur notre Aventin. Parce que moi, le premier, de manière assez confortable, je pourrais dire, il n'y a qu'à Faucon, sénateur réélu, il y a peu de temps et bien réélu, je pourrais juste dire, voilà ce qu'il faudrait faire, point barre. Et ne pas, finalement, rentrer dans ce qui est plus compliqué, c'est le champ de l'action, de trouver d'autres personnes avec qui porter des propositions. Donc je pourrais très bien rester où je suis et avoir un impact très faible à la fin, sorti de quelques phrases un peu ciselées. Donc je prends ce risque-là parce que je pense que la réponse qu'on doit apporter aujourd'hui, elle doit effectivement un peu remettre en cause les cadres établis, sortis de nos conforts et de nos jeux un politicien un peu installé.
Mais comment on rétablit ou on réinstalle un échange, un dialogue? Ils vont dire, bah oui, un débat, oui, mais moi, je n'arrive pas à boucler mes fins de mois.
Oui, mais des gens qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, s'ils ont juste obtenu que la contribution carbone énergie, qui pèse assez peu finalement sur le prix des carburants, soit bloquée, le mois prochain, ils finiront pas mieux le mois. Donc s'ils ne pensent pas eux-mêmes qu'on sort de cette mobilisation par des mesures plus fortes, ils auront eux-mêmes plus de frustration après cette mobilisation. Donc il faut essayer de leur expliquer qu'il doit y avoir obligatoirement des traductions politiques dans la loi, dans les mécanismes fiscaux de redistribution de leur mobilisation. Et qu'effectivement, le leur dire au début, c'est compliqué parce que c'est nos codes, c'est notre langage à nous. On n'est pas obligatoirement de grands pédagogues pour aller discuter de ça. Mais malgré tout, notre responsabilité, c'est de le leur dire. De leur dire, attendez, ça peut être une victoire à la Pyrrhus. Ça peut être l'écotaxe. L'écotaxe, c'est quand même un truc incroyable où il y a une mobilisation en Bretagne où les gens se disent, nous, on est loin. S'il y a l'écotaxe, on sera encore plus loin et ça va être mauvais pour notre économie. Ils obtiennent, dans un premier temps, des aménagements qui fait que la taxe est moins forte en Bretagne et avec beaucoup d'exonérations. Et malgré tout, ils ne s'arrêtent pas et il n'y a plus d'écotaxe et il y a 2 centimes de plus sur chaque litre de gazole, ce qui fait qu'en termes de compétitivité, ils ont perdu au final et ils n'ont rien gagné. Moi, je ne voudrais pas que les gilets jaunes, ça se finisse comme les bonnets rouges. Il faut que les gilets jaunes, ça se termine effectivement par plus de redistribution et un contrat social réécrit, au moins en partie. Ça, c'est ma responsabilité de parlementaire, de rentrer dans ce débat-là, même s'il y a probablement plus de coups à prendre que de bouquets de fleurs à attendre.
On voit bien que les annonces qui sont faites, ça n'a pas d'impact.
Moi, je pense qu'elles n'ont pas d'impact parce qu'on a attendu trop longtemps. Moi, je le dis.
Bah,
aujourd'hui, que faire? On lance ce débat. Alors, j'en suis ravie parce que c'est ce que j'avais demandé avant même qu'on mette en place ce débat. Mais je pense qu'effectivement, il va falloir co-construire ce pacte social. On ne peut pas le faire, on ne peut pas prendre comme ça une mesure. C'est ce qu'a dit Ronan tout à l'heure. C'est-à-dire que prendre une mesure et ça s'arrête, ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'il faut travailler ensemble sur leur réelle demande, à dire. Comment redonner directement le pouvoir d'achat? On va avoir des mesures qui vont arriver en 2019 qui vont montrer qu'on va gagner en pouvoir d'achat. Mais moi, ce qu'ils en attendent, c'est ça, moi, j'ai retenu, c'est de la clarté. Ils veulent de la clarté, de la lisibilité. Ouvrez leurs impôts, payez des taxes. Trop de taxes. Il y a quand même une certaine partie de la population des Gilets jaunes qui disent on taxe trop, on ne sait pas où ça va. Et si on fait déjà ce premier point sur la lisibilité, où vont les impôts? Moi, je suis pour remettre à plat les niches fiscales, parce que je suis persuadé qu'il y a aussi de l'argent, entre guillemets, à récupérer sur ces niches fiscales. Il y en a qui sont cohérentes, il y en a qui ne le sont plus, et retravailler sur ce pacte social. Il faut aussi prendre la conscience et la mesure que prendre aujourd'hui une mesure exceptionnelle, effectivement à situation exceptionnelle, ce serait idéalement ce qu'il y aurait de mieux, mais quelles conséquences derrière à moyen terme ou même à court terme? Alors moi qui ai fait 20 ans de sport de haut niveau, je pense que le respect de l'adversaire, c'est quelque chose qui est ancré. Donc le dégager, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu vraiment. Mon engagement, c'était de dire, plutôt que de râler, parce que je suis une râleuse, voilà, et de ne pas pouvoir donner une voix, moi, je l'ai pris comme un devoir citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le seul qui nous a tendu la main, il n'était pas présent à l'époque, c'était Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette nouvelle génération. Après, Rome ne s'est pas fait en un jour, et c'est vrai qu'il y a encore des reliquats. Moi, je me bats aussi pour dire qu'être un bon député, c'est pas non plus avoir fait Sciences Po, avoir fait l'ENA, être issu d'une famille CSP++, et je pense que c'est aussi à nous de monter un petit peu au créneau, parce que même moi, je dis stop, c'est faux. Voilà, c'est-à-dire que la technocratie, elle a eu son temps, on en a besoin, mais il faut aller plus loin. Ça va mettre un petit peu de temps. On va mettre du temps à aller vers ça. Mais moi, je me retrouve pas là-dedans. C'est-à-dire que moi, je suis d'un milieu modeste, on est 5 enfants, et la France m'a permis de réussir. C'est-à-dire l'école m'a permis de réussir, le sport m'a permis de réussir. Pas parce qu'aujourd'hui, je suis élu, j'ai réussi bien avant. C'est-à-dire que tous ces liens sociaux, le sport, l'école, ont permis d'accéder aux études supérieures. Que mes parents, et je leur en veux pas du tout, et je l'assume pleinement, ne pouvaient pas me payer. Donc je pense qu'effectivement, il faut que nous, ces voix-là, on prenne un petit peu plus d'assurance et qu'on monte au créneau. Après, c'est compliqué quand vous avez en face de vous des députés qui ont fait effectivement Sciences Po, qui ont l'éloquence. Et moi, je trouve que c'est bien ce mouvement parce que aussi, on doit prendre nos responsabilités de se dire, si demain, je fais une erreur sur un mot, c'est pas grave, je fais l'erreur, mais au moins, j'incarne. Et la population, elle peut s'identifier à moi. Et je pense qu'il faut y aller sans complexe. Et que s'il y a des petites erreurs, je pense qu'on nous entendra moins rigueur qu'un discours très éloquent avec pas d'action derrière.
Organiser des débats, les pensées en commun, c'est pas ouvrir un cahier de doléances ou des cahiers de doléances.
Les cahiers de doléances peuvent en faire partie. Moi, toutes les formes sont bonnes à prendre. Mais s'il n'y a pas derrière de vraie traduction, on n'y arrive pas. On a un gouvernement actuel d'essence libérale qui, effectivement, est plutôt sur la baisse de la dépense publique. La baisse de la dépense publique, ça ne redistribue pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut concevoir différemment la fiscalité et lui donner un rôle redistributif plus important. Les cahiers de doléances, s'ils disent la même chose, ils seront peut-être écoutés, mais je pense quand même que quand on est un peu dans la technicité, et il faut de la technicité, la fiscalité c'est très technique, sinon c'est Bercy qui décide seul. Si on ne va pas un peu dans la technique de trouver les meilleures formes, alors demain notre société restera bloquée. À un moment, le déblocage pour ceux qui sont en situation de précarité et de frustration sociale, c'est le populisme. Donc on va dans le débat pour éviter aussi le populisme. Tout l'enjeu du débat qui s'ouvre maintenant, c'est qu'effectivement, on n'en reste pas simplement à l'arrêt de l'augmentation de la contribution climat et un chèque énergie ou mobilité sur une somme assez faible, point barre. Et surtout, derrière 4 milliards d'économies qu'il va bien falloir trouver, moi je crains qu'on les trouve sur les collectivités et sur les services publics, et que finalement, ce soit une situation où ceux qui sont mobilisés ne gagneront rien dans cette affaire. Ça, je crois que ce risque-là existe, d'où l'enjeu, effectivement, pour ceux qui sont mobilisés, de rentrer maintenant dans un vrai débat. Et dans un vrai débat, ça veut dire que c'est un débat sur le pouvoir d'achat, où on rentre les grandes questions qui n'ont pas été traitées par ce gouvernement, et pas par les autres non plus. Le prix du logement, qui est le premier moteur de la crise qu'on vit, c'est le prix du logement d'abord qui a diminué le reste à vivre, qui amène des gens de plus en plus loin des centres urbains, puisqu'ils ne peuvent plus s'y loger, donc avec derrière des coûts extrêmement importants. Donc il faut ouvrir le débat sur la question du logement. Il faut ouvrir le débat sur l'aménagement du territoire, puisque si on continue à concentrer l'emploi sur les métropoles, on voit bien qu'à la fois, on a ce phénomène d'étalement urbain autour des métropoles, avec des gens qui se retrouvent avec des coûts de contraintes de mobilité extrêmement élevés. Mais en plus, on a des territoires complets qui sont, eux, totalement sinistrés. Et là, l'analyse de Guilhuy est intéressante. Ou dans une situation où les gens se disent « Moi, j'ai encore un boulot, et si je le perds, il l'explique assez bien, si je le perds, de toute manière, comme mon territoire ne crée plus d'emplois, c'est mort. » Donc il y a cette angoisse-là de dire « je suis en fragilité parce que tout de même mon territoire est trop faible. » Et puis c'est la fermeture de la maternité du Blanc, c'est des services publics qui diminuent. Donc la question de l'aménagement du territoire est une des deuxièmes, des grandes questions qui est posée par cette crise. Comment fait-on pour remettre de l'emploi sur l'ensemble du territoire? Pas une question simple. Mais on voit bien que la logique libérale de ces 35 dernières années... Je reste un écologiste de gauche affirmé.
Je l'entends.
La logique libérale de ces 35 dernières années a fait qu'on a tout fait pour finalement adapter nos économies aux contraintes extérieures de la mondialisation, qu'on a des territoires gagnants de ça. S'il y en a un qui est gagnant, c'est bien celui sur lequel on se trouve, mais que ça ne répond pas à l'échelle nationale, et que dans ce débat sur l'aménagement du territoire, ça, territoire 44, notamment le porte fortement, la question de faire ressortir de la métropole une partie des emplois pour mieux équilibrer le territoire est vraiment posée. Et là, connaissant bien mes camarades de la métropole depuis longtemps, c'est encore un sujet totalement tabou.
Extrait d'une conférence de presse conjointement donnée par Odamadou, député La République En Marche de Loire-Atlantique, et Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, rattaché au groupe du Rassemblement démocratique et social européen.
On ne sort pas encore à ce stade d'une vision du développement économique de la métropole où il s'agit de capter le maximum d'activités dans une logique de compétition forte avec les autres métropoles et avec les autres territoires, alors que de toute évidence ça ne marche plus. Ça, comment engage-t-on le débat sur une autre logique de développement économique, ne serait-ce qu'à l'échelle de la Loire-Atlantique? On voit bien la différence entre les différents territoires. Il y en a qui vont bien. Le pays d'Ancenis est en quasi plein emploi. Le pays de Machecoul va bien aussi, Ancenis, ou Clisson. À l'inverse, arrivé à Blain ou Châteaubriant, les difficultés sont majeures. Et d'ailleurs, la carte des Gilets jaunes, ça ne correspond jamais parfaitement, mais on voit quand même ou sur l'ensemble de la Bretagne, c'est net. C'est Saint-Brieuc qui s'est mobilisé le plus, c'est pas pour rien. Saint-Brieuc, c'est vraiment le territoire breton qui va le plus mal, ou le centre-Bretagne, ce que vous avez fait ce matin. Donc, il faut absolument qu'on réussisse à rentrer dans le débat la remise en cause, ou pour mieux dire, plus que la remise en cause, le passage à un nouveau cycle d'approche du développement économique de la métropole. Je pense que les élus métropolitains se sont tellement habitués à une approche d'attractivité et de concentration de l'activité économique sur la métropole, que ça n'est pas facile. Moi, je pense que c'est de l'ordre du tabou. C'est, comme le disait un grand directeur de service, il y a un impensé métropolitain des territoires autour. Je trouve que c'est une belle formule. Ben voilà, cet impensé-là, maintenant, il faut absolument s'y confronter. Ça ne veut pas dire que la métropole n'a pas un rôle de moteur. Il vaut mieux avoir une métropole près de chez soi que pas de métropole. Hein. Il vaut mieux être en Bretagne avec l'axe Nord-Rennes que dans le centre de la France, c'est clair. Mais ça ne peut pas être simplement une logique de concentration avec montée des prix, des habitants plus loin et des territoires qui s'en sortent plus ou moins bien suivant la manière dont ils sont connectés à la métropole. Ce débat-là doit faire partie du débat des trois prochains mois. Ça, c'est à mon avis un point absolument essentiel.
Il y a une chose qui est souvent oubliée, c'est que le parlementaire, effectivement, alors c'est ce qui nous différencie avec Ronan, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis parlementaire de la majorité, et bien évidemment, je suis en soutien et j'adhère à la politique nationale, mais on a tous un point commun, c'est le territoire. Et c'est là où, ce matin, où ça peut paraître un peu étrange de changer, mais on est tous là pour défendre nos territoires. Et moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité qui devait de faire un débat national et territorial. Parce que le vrai souci sur ce mouvement, c'est la fracture territoriale. Je pense que Ronan, tu l'as bien expliqué. Et je pense qu'il faut faire ressortir, justement, arrêter les péréquations. C'est-à-dire qu'à chaque... Alors moi, j'ai découvert, hein, pardon, j'ai découvert péréquation pour les CCI, péréquation pour ceci, péréquation pour cela. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Vous avez toujours des gagnants et des perdants. Et moi, je pense qu'il faut tenir compte du territoire, de chaque territoire. Et je pense que le territoire doit écrire son propre contrat social, son pacte social. C'est ce que j'avais initié en lançant la tribune avec des parlementaires de territoires spécifiques, avec des profils plus proches de la représentativité et des choses qu'on a connues. Mais je pense qu'il faut réellement aller vers ce pacte social et rapidement remettre les corps intermédiaires dans ce pacte social.
Les territoires, c'est quoi, les régions, les départements, les métropoles?
Tout. C'est tout. Il y a plusieurs échelles qui s'entrecroisent. Le territoire, fondamentalement, c'est le bassin de vie. Effectivement, il y a des bassins de vie qui ont des situations extrêmement diverses. Certains qui ont vécu à plein la décentralisation, d'autres qui ont connu des modifications de population, y compris parce qu'ils sont attractifs. Ils n'ont pas tous les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Mais on a vraiment besoin de réécrire ce contrat social. Si on fait ce point presse en commun, c'est parce qu'effectivement, Aude, vous étiez quoi, une dizaine de parlementaires de la majorité de l'Assemblée, que des députés.
Que des députés.
On écrit ce texte sur le fait de dire qu'il faut un nouveau pacte social. Et moi aussi, clairement, depuis longtemps, je dis la nécessité d'un nouveau contrat social, qui est un contrat social à la fois avec les individus et un contrat social avec les territoires. C'est ce double contrat social qui est vraiment sur la table aujourd'hui. deuxième élément du moment, et qui est lié à la Loire-Atlantique, c'est qu'à partir du moment où on dit on a une crise démocratique, il faut donc faire extrêmement attention aux réponses qui sont apportées sur les grands dossiers départementaux et locaux. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Notamment, il faut faire extrêmement attention aujourd'hui à la suite qui est donnée à la pétition sur la réunification administrative de la Bretagne. C'est 100 000 personnes. 100 000 personnes. Plus ou moins motivées probablement, mais il y a 100 000 personnes qui posent un acte citoyen. Parce que là, c'est vraiment un acte citoyen. De dire, je veux une consultation. Ça ne peut pas se traiter par un débat de 2 heures dans l'enceinte départementale. Fin de l'histoire. Ça serait un signal absolument désastreux. Donc, ça veut dire aussi que sur ce sujet-là, il faut trouver maintenant une méthode qui permette de dire à tous ceux qui sont mobilisés, et là c'est quand même un nombre considérable, c'est rarissime 100 000 personnes, hein, sur un seul département.
100 000 personnes qui demandent à une consultation.
Oui, absolument.
Non, forcément non, favorable à une
consultation. J'ai dit comme ça. Donc là, il y a un enjeu démocratique immédiat. Quand on dit immédiat, c'est que ça passe au département le 17 décembre. Il faut être conscient que la loi n'est pas opérante. Je la connais bien, elle a été discutée au Sénat et elle a été construite de telle manière que le système ne puisse pas marcher. Je sais parfaitement comment ça a été fait.
Les votes par collectivité, c'est ça?
Oui, donc il faut les 3/5 dans 3 collectivités, donc chacune peut bloquer. On voit bien comment les régions des Pays de la Loire pourraient bloquer les choses. Donc, il faut avoir le courage de dire aujourd'hui à ceux qui sont mobilisés, la loi n'est pas opérante, et que finalement le département est aussi dans un piège, parce qu'il n'a pas tellement de capacité de réponse.
Alors moi, en fait, là où j'ai rejoint également Ronan là-dessus, c'est que c'était un engagement que j'avais lors de ma campagne législative, c'est-à-dire que j'ai pas de position arrêtée sur le sujet. Par contre, j'avais dit ouverture vers un débat, j'y étais favorable, c'est-à-dire que moi, je suis partisane, d'ailleurs, en plein dedans, c'est-à-dire qu'il faut poser les débats. Que les gens puissent s'exprimer. Donc là où je rejoins Ronan, c'est de dire oui, effectivement, je ne suis pas fermé à ce débat, puisque en l'occurrence, pendant ma campagne, j'y étais favorable. Donc, je tiens cet engagement.
Donc,
mais le débat, c'est bien, mais à un moment,
voilà,
il faut décider
alors,
aussi.
Oui, c'est ça. Donc la proposition que nous portons à ce stade, c'est de dire il ne faut pas que le département, le 17 décembre, passe un message comme quoi c'est la fin du débat. Et il faut qu'on soit en capacité de déposer à l'Assemblée ou au Sénat, il faut voir où est-ce qu'on a la majorité, pour une proposition de loi qui simplifie les choses et qui mette en fait le référendum au cœur de la décision. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir un référendum qui dit oui, et puis la région qui dit non, et puis tout est bloqué. Donc il faut une loi plus simple qui met le référendum... Oui. Donc, qu'il soit beaucoup plus simple en disant, voilà, là où il y a une pétition de ce type, il y a référendum, et le référendum est décisionnel. Finalement, on a besoin que de 2 accords, c'est la région d'accueil et la population sur place. Et après, la région qui se voit quitter, elle s'organise.
Elle n'aurait pas son mot à dire.
Depuis 72, le débat.
Le département et le référendum uniquement, c'est ça?
Et la région d'accueil qui dit OK.
Mais qui, à la limite, si un consensus du conseil régional, il n'y a pas besoin de référendum. Ça veut dire qu'il y a un consensus derrière. Ou un droit de référendum s'il y a vraiment débat. Mais il faut vraiment simplifier les choses. Depuis 72, on a eu un nombre de votes incalculable en faveur de la réunification, y compris du conseil général de l'époque. En 72, tout le monde est d'accord sur la réunification. Hein. Simplement, il n'y a pas accord sur le périmètre de la nouvelle région. Et Pompidou dit que vous n'êtes pas d'accord sur les périmètres, ceux qui voulaient la Vendée, ceux qui voulaient la Mayenne avec la Bretagne. Il ne s'est rien fait. 46 ans après, la question est toujours posée pareil. Et comme il n'y a pas de consensus, on n'y arrive pas. Donc là, il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut une autre proposition de loi. On a un gouvernement là-dessus qui est assez ouvert quand même. Et il l'a montré, comme quoi je ne suis pas critique tout le temps, sur l'Alsace. Où il a montré, que ce soit sur la Corse ou l'Alsace, une capacité d'être assez ouvert à des démarches venant des territoires sur des modifications des compétences. il faut en profiter. Donc il faut absolument que nous, parlementaires, on soit capable de mettre sur la table une proposition simplifiée pour aller au référendum. Et que ce référendum soit décisionnel, qu'on en finisse. Ce qui veut dire bien l'organiser, parce qu'on a eu, à un moment où vous avez posé la question, des référendums qui ont...
Un référendum au plan départemental.
Au plan départemental.
Pardon. On sait ce qui va, les signes au plan départemental.
Oui, c'est ça. Donc ça se prépare. Ça se prépare. Ça se fait pas en 2 mois, sans profession de foi, sur le périmètre qui correspond pas. C'est d'abord un consensus des acteurs. Il y a quelques règles à respecter. Je peux vous donner toutes les règles qui n'ont pas été respectées la dernière fois.
On n'était pas référendum non plus.
Donc ça, c'est pour moi un point absolument important aujourd'hui. Si on dit dans la crise démocratique qu'on vit à 100 000 personnes, pas obligatoirement pour, hein, ben vous allez rire. Tout ça a été balayé en 2 heures parce que le système fait que ça ne marche pas. On rajoute une pièce dans la machine de la défiance. Donc c'est aussi, je pense, un test pour les élus de Loire-Atlantique. Tous ne sont pas totalement enthousiastes sur l'idée d'un redécoupage, ça ne vous avait pas échappé. C'est aussi un test sur notre capacité à trouver des formes démocratiques qui correspondent au moment. Si on trouve un consensus assez fort en Loire-Atlantique, moi je ne vois pas l'État refuser une PPL de ce type. En plus, il y a d'autres départements en France qui sont intéressés. Le Cantal, par exemple, la méga région Rhône-Alpes-Auvergne, ils ne sont pas très enthousiastes. Une partie du Cantal regarde vers Toulouse, donc il y a d'autres départements qui sont aussi intéressés. Donc ça, c'est un premier point assez important, je pense, dans le contexte, et c'est dans le contexte des 15 premiers jours.
Merci à Aude Amadou, député La République En Marche de Loire-Atlantique, et merci à Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, rattaché au groupe du Rassemblement démocratique et social européen, pour s'être librement exprimé au cours de ce programme.
Les gens vous contactent, après, c'est quoi, vous organisez des réunions ?
Eh bien, il faut qu'on discute, effectivement, avec les gens qui sont intéressés par ce débat-là, avec cette perspective que le débat sorte avec des propositions qui renforcent la redistribution. La crise actuelle, c'est une crise de la redistribution d'une société riche qui ne protège plus une partie de sa population. Donc, ceux qui sont dans cette logique-là, le renforcement du contrat social, d'égalité territoriale et d'une redistribution mieux faite, nous contactent et on discutera ensemble, en lien effectivement aussi avec la manière dont la CNDP voit le débat, pour prendre des initiatives. Mais on ne va pas dire lesquelles avant qu'on ait discuté avec les uns les autres. Mais on va y aller dans le débat. Il faut absolument maintenant y aller. Si on sort de cette période de débat avec des mesurettes, quasiment rien, ou simplement acter que la fiscalité écologique c'est punitif, on se prépare des temps extrêmement difficiles derrière. Je suis évidemment très critique sur les 2 premières années ou les 18 premiers mois du gouvernement Philippe. Ça n'échappera à personne. Il y a finalement, comme dans chaque crise, à la sortie d'une crise, il y a un moment qui s'ouvre, qui peut permettre de faire société. Ça veut dire aussi qu'une partie des Gilets jaunes ou d'autres abandonnent l'idée que la France va s'en sortir par une révolution, une insurrection générale, ça ne marche pas, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas là plus qu'avant, simplement. Il y aura beaucoup de dégâts humains et qu'il faut revenir sur le champ politique, vraiment. Se colle pas parfaitement, mais quand même, la carte gilet jaune, c'est la carte des territoires qui souffrent. Hein. Alors il y a toujours après, il y a vraiment des sociologues, il y a vraiment des écoles de sociologues, notamment jacobine parisienne, pour essayer de dire non, c'est pas ça, c'est que du social, parce que la dimension territoriale a toujours posé problème à la gauche jacobine. Mais enfin, quand on regarde les cartes, c'est quand même ça. Quoi.
Moi qui n'arrête pas de râler, moi ça fait quand même 18 mois que je râle sur à quelle heure la justice sociale. Hein.